Bonsoir. Donc nous inaugurons en fait un partenariat études et faculté Loyola, un partenariat qui semble tout à fait naturel, pour des soirées de grands entretiens. Et on a voulu inaugurer en fait ce partenariat par une rencontre avec William Marx. Parce que nous avions rencontré il y a quelques mois William Marx pour faire un grand entretien dans la revue Études sur le pape et la littérature à l'occasion de la sortie de la lettre du pape François sur la formation, le rôle de la littérature dans la formation, qui était sortie au cœur de l'été en plein JO le 4 août. Alors je sais pas, cette lettre, moi j'avoue, je l'ai pas vue tout de suite à sa sortie. En revanche, ce que j'ai lu, ce qui me l'a fait connaître en fait, c'est l'article de William Marx dans Le Monde, hein, la tribune de William Marx dans Le Monde, dont j'ai trouvé d'ailleurs qu'elle synthétise à merveille, en fait, elle fait ressortir à merveille l'essentiel de cette lettre. Et du coup, je me suis précipitée ensuite pour lire cette lettre que j'ai lue avec enthousiasme, avec je crois le même enthousiasme que William Marx. Et donc nous avons rencontré William Marx, nous avons fait un entretien que vous pouvez retrouver dans le numéro de novembre qui est à la sortie. Et nous lui avons demandé donc de poursuivre cette conversation avec lui à l'occasion aussi de la sortie. Je crois qu'il y a deux éditions en fait de cette lettre. Il y a une édition au CERF et puis une édition, si je puis dire, profane. Je ne sais pas comment dire, mais qui, en tout cas, j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle Loué soit la lecture. Voilà, ouais, c'est ça. Loué soit la lecture, et qui est préfacé. L'édition a été préfacée donc par William Marx. Donc William Marx, qui est professeur au Collège de France, professeur de littérature comparée, il est l'auteur de nombreux ouvrages, vient d'être réédité « Vivre dans la bibliothèque du monde », sa leçon inaugurale au Collège de France et aux éditions donc du Collège de France. Mais aussi parmi ses derniers livres, on notera des titres intrigants, là, pour notre soirée de ce soir, « La haine de la littérature » ou « L'adieu à la littérature ». Peut-être qu'il pourra nous expliquer en quelques mots de quoi il retourne en fait dans ces titres-là, mais aussi un autre, je crois que c'est le dernier, Des étoiles nouvelles. Ah oui, quand la littérature découvre le monde, et il y en a plein en fait. Il y a un été avec Don Quichotte. C'est il y a quelques mois. Un été avec Don Quichotte, c'est aux éditions. Aux éditions des Équateurs, voilà. Et puis le cours de poétique de Paul Valéry aux éditions Gallimard, un gros travail avec deux volumes. Voilà. Donc nous sommes vraiment ravis de l'accueillir. Je crois que c'est une première aux facultés Loyola. Et nous espérons que cela va ouvrir même peut-être pour étendre la formation à la littérature aux facultés jésuites. Merci d'être avec nous. Alain Cugnot, directeur du département esthétique que vous connaissez bien, est avec moi pour animer cette soirée. Nous allons faire un échange en fait de jeu de questions-réponses, ça va durer jusqu'à 8 heures, et puis on vous laissera aussi une demi-heure, évidemment, pour vous-même poser des questions à William Marx. Alain, à toi l'honneur de la première question.
Merci beaucoup pour cet honneur. Le hasard a voulu que j'ai lu très longtemps avant de lire votre préface de la lettre du pape. Et j'avais trouvé ça assez enthousiasmant, j'avais trouvé ça très intéressant. Et puis, hier, un ami m'a prêté « Loué soit la lecture » et là, j'ai lu votre préface. Avec l'impression de passer d'une carte à une carte en relief. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point vous avez été sidéré par un certain nombre de sommets de cette carte en relief. Et donc, ma première question, ce sera, mais pourquoi la sidération et comment cela vous est-il apparu aussi sidérant?
Alors, voilà. Bon, merci. D'abord, merci. Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour cette invitation à parler de cette lettre du pape François sur la littérature, enfin le rôle de la littérature dans la formation, qui m'a, comme vous l'avez dit, effectivement sidéré. Il se trouve que j'ai ma spécialité en tant que spécialiste de littérature, c'est en fait l'histoire de la critique littéraire, l'histoire de la théorie littéraire. Donc, vous dites que c'est un bel éloge, donc je le reprends, je le répète, sans modestie. Vous dites que j'ai essayé de faire surgir les reliefs de la carte de ce que représente cette lettre, mais c'est en fait parce que j'ai une certaine habitude à retrouver dans les textes critiques en quelque sorte les directions, les tropismes, comme dirait Nathalie Sarraute, les implicites un peu cachés. Et elle allait faire apparaître. Et donc, ce qui m'a tout de suite frappé dans cette lettre du pape François, c'est qu'elle était, j'ai employé un mot un peu galvaudé, mais révolutionnaire, quasiment subversive, du moins par rapport à une certaine vision habituelle qu'on peut avoir du discours catholique ou chrétien sur la littérature. Mais je dis par rapport à une certaine, parce qu'en fait, nous verrons que peut-être historiquement les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches qu'on ne pourrait le croire a priori. Cette lettre m'a passionné parce que justement c'est un discours sur la littérature. Et moi, évidemment, en tant que spécialiste de littérature et des discours sur la littérature, qui est vraiment ma spécialité centrale, bah évidemment rien de ce qui est littéraire et rien de ce qui concerne la littérature ne m'est étranger. Et donc voilà, quand il y a un livre important sur la littérature qui paraît, je le lis. Et là, quand c'est signé par le pape François, bah c'est pas courant quand même qu'un pape écrive sur la littérature ou sur l'art. Le dernier texte, je crois, sur l'art d'un pape, si je ne me trompe, c'était il y a 25 ans, c'était Jean-Paul II, donc une lettre sur le rôle de l'art. On pourra peut-être y revenir, parce qu'il y a des différences assez intéressantes entre la lettre de Jean-Paul II et celle de François. C'était une lettre aux artistes, voilà. Et là, j'ai été d'abord impressionné par le fait qu'un pape parle de littérature, parce que, ma foi, si je peux dire, excusez-moi cette expression en ces lieux, ma foi, c'est pas non plus là-dessus qu'on attend a priori un magistère pontifical. Et donc, j'ai trouvé déjà, et ça m'a beaucoup impressionné, une réflexion sur le rôle et l'avantage qu'il y a pour quelqu'un en formation, et le pape s'adresse d'abord aux formateurs de prêtres, de clercs, aux séminaristes, l'importance de lire de la littérature pour devenir un bon religieux, un bon prêtre, etc. Donc déjà, quand il y a un éloge de la littérature dans l'éducation, pour la formation intellectuelle, évidemment, il y a quelque chose qui est très alléchant pour le littéraire que je suis. Et le pape fait cela avec une expérience de l'intérieur. Parce qu'en fait, ce n'est pas, vous le savez, ce n'est pas n'importe quel pape que nous avons actuellement. Il est jésuite, on le sait. Mais avant d'être jésuite, mais en étant jésuite, il a été aussi formateur, il a été aussi professeur de lettres, professeur de littérature dans sa jeunesse, dans les années entre 64 et 66. Et pendant 2 années, il a enseigné la littérature à des lycéens à Santa Fe, assez loin d'Argentine, donc assez loin de Buenos Aires. Et ma foi, cette expérience d'enseignant de lettres, elle anime de l'intérieur le discours du pape. Et ça se sent dès le départ. Donc on sent qu'il y a des souvenirs intimes qui animent cette lettre. Et bon, pour l'enseignant de littérature que je suis, et peut-être pour d'autres, je trouve que c'est intéressant d'avoir un pape qui ait été professeur de littérature. Et donc on voit apparaître là tout un ensemble de discours pour dire l'intérêt qu'il y a à lire de la littérature dans la formation intellectuelle générale. On pourra revenir sur le type d'intérêt qu'il y a là-dessus, le rapport, le fait que la littérature permet d'accéder à l'altérité directement, de rentrer dans les abysses de l'âme humaine, parce qu'au bout du compte, pour un prêtre, pour un religieux, je pense que c'est, me semble-t-il, c'est extrêmement important de connaître l'humanité. Et le pape ici s'adresse à des aux formateurs en disant voilà, ne lisez pas que des articles de journaux, que des discours seconds en quelque sorte, ou des traités sur les différents objets qui vous intéressent, la psychologie, etc. Mais l'important, c'est d'aller directement au contact de l'âme et de cette altérité. Et cette altérité, on l'a directement dans les textes littéraires. Et ça, c'est quelque chose de très très fort que dit ici le pape. Je parle un peu trop long, je réponds un peu longuement à votre question, mais vous maintenant, on fait comme ça, après on reviendra sur les détails, peut-être. Et il dit que, je trouvais ça très fort, parce que c'est un discours qu'on entend assez peu au bout du compte, que la véritable altérité, et à laquelle, je pense, un chrétien, enfin fortement, est évidemment, et surtout un futur prêtre, religieux, et évidemment doit se confronter à un moment ou à un autre, on l'a beaucoup plus à travers les textes littéraires qu'à travers des textes qu'on pourrait dire de type secondaire, c'est-à-dire de l'histoire, même de la philosophie. Et pourquoi cela? Parce que quand vous lisez un livre d'histoire, eh bien, en fait, vous lisez quelqu'un qui s'adresse à vous en tant que contemporain. Un grand philosophe italien, Benedetto Croce, disait « Toute histoire est contemporaine. Toute histoire est contemporaine. » C'est-à-dire qu'en fait, l'historien, avant de faire l'histoire du temps passé, il s'adresse d'abord à ses contemporains. Donc, il fait un travail de traduction, de translation du monde passé. Et il s'adresse à ses contemporains. Donc en fait, lire un livre d'histoire, c'est absolument passionnant, mais c'est un rapport médié, indirect, à l'altérité. Lorsque nous lisons de la littérature, nous dit le pape, c'est tout autre chose. Nous avons affaire aux mots même employés par des gens très loin de nous, qui peuvent être très loin de nous par la culture, par le temps, et ce sont ces mots-là qui vont nous faire pénétrer directement dans cette altérité. Et il y a cette expression dans le pape que je trouve assez frappante. Enfin, moi, je n'avais jamais vu un pape parler de. Il parle des styles littéraires et grammaticaux divers que l'on trouve dans les textes, que l'on trouve dans la littérature. J'avais jamais entendu parler un pape parler de style. Et je trouve ça très fort, parce que ça veut dire qu'il a vraiment compris ce qui était l'essence même de la littérature, c'est-à-dire la confrontation à un discours qui vient d'ailleurs, avec les mots exactement qui ont été prononcés, écrits par la personne, par l'auteur, l'autrice du texte. Et ça, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable, cette confrontation directe à l'altérité. Et aucun texte historique, journalistique, sociologique, psychologique ne pourra remplacer cela. Donc il y a d'autres arguments qui sont énumérés par le pape pour dire voilà l'intérêt de lire de la littérature, mais je trouve que cet argument-là de l'altérité, de la confrontation au langage même, aux mots même employés par l'auteur, ça c'est quelque chose qui est effectivement irremplaçable et qui on pourra revenir aussi sur cette question du travail de l'intériorité de la littérature sur l'intériorité même du lecteur. C'est quelque chose de très très important, mais c'est quelque chose là qui est vraiment essentiel. Et puis il y avait autre chose, c'est-à-dire au-delà de tous ces arguments sur le rapport entre littérature et altérité, le fait que la littérature nous permet de rentrer directement en contact avec l'expérience d'autrui en nous invitant à nous mettre à la place d'autrui, à la différence d'autres œuvres artistiques qui sont magnifiques, hein, je veux dire qu'il y a des chefs-d'œuvre du cinéma, de la télévision, enfin de tous les médias audiovisuels, mais toutes ces choses-là sont des choses qui nous sont qui nous sont présentées comme un spectacle. C'est on est devant des images qui nous sont projetées devant nous. L'œuvre littéraire, elle est en fait construite par le lecteur. On y participe intérieurement, psychologiquement. Et donc, c'est une œuvre qui se construit par notre propre expérience du langage et par une implication directe, du lecteur dans la construction de l'œuvre. Et donc, lorsque nous lisons le témoignage, Madame Bovary de Flaubert, nous entrons dans le point de vue de cette femme, voilà, et nous vivons à travers elle. Elle n'est pas présentée devant nous. Nous sommes en fait, dans son point de vue interne, nous voyons le monde à travers ses yeux. C'est tous les faits qu'a plus ou moins développé ou inventé Flaubert de ce qu'on appelle la focalisation interne, un terme de technique littéraire. On n'est pas obligé de rentrer dans ces détails-là. Mais bref, la réalité que nous présente la littérature, elle est en fait construite par le cerveau du lecteur. Ça, c'est des choses que les spécialistes de neurosciences reconnaissent bien volontiers. Il y a des livres, des recherches qui sont faites là-dessus, qui montrent le caractère absolument irremplaçable de l'expérience de la lecture, de la littérature, par le biais du langage, dans la formation intellectuelle des jeunes, des enfants, des adolescents et des adultes, et évidemment des séminaristes. Parce que, évidemment, dit le pape, ce qu'il s'adresse évidemment d'abord aux futurs séminaristes et aux formateurs de séminaristes, mais tout de suite il dit au bout du compte ça concerne la formation de tout être humain. Et c'est en cela que moi, qui ne suis pas formateur séminariste, j'ai été interpellé par cette lettre. Et donc tous ces arguments là sont magnifiques. On pourrait y revenir un peu plus en détail, mais si je puis dire, le pape ne les a pas inventés. Ce sont des choses qui existent déjà dans le discours littéraire, dans la théorie littéraire depuis très très longtemps, depuis Aristote. On peut faire la somme de ces références plus ou moins implicites, hein, qu'il y a dans le texte, mais il y a là tout un savoir de théorie littéraire qui a été accumulé au cours des siècles, voire des millénaires. La confrontation à l'altérité, le rôle du langage, la catharsis, hein, le fait qu'on puisse être édifié par des textes qui vous racontent ce que dit Aristote, qui présentent des actes qui paraissent intrinsèquement mauvais, qui présentent du malheur. Pourquoi un texte, une tragédie par exemple, qui présente les malheurs du monde, pourquoi la tragédie peut-elle, et présente aussi les vices des hommes, pourquoi la tragédie peut-elle être vertueuse, avoir un effet vertueux sur le lecteur? Voilà ce que dit Aristote dans la Poétique. Donc là, tout cela, c'est des choses qui se retrouvent de manière implicite dans la lettre du pape. Et de ce point de vue-là, je trouvais que c'était une magnifique introduction à réflexion sur le rôle de la littérature. Et c'est pour ça que j'invite, et j'ai été content de faire une préface pour cette lettre, dans ce que vous dites une édition un peu profane, mais parce que l'idée, c'est que, voilà, je trouvais important que cette lettre, qui parle de littérature, puisse être aussi lue par des gens qui sont des laïcs, des non-chrétiens, des non-croyants, parce que je crois qu'il y a là un discours sur l'importance du rôle de la littérature dans la formation, qui peut être utile à tout le monde, même non croyant. Et donc, j'ai trouvé qu'avoir une édition un peu, voilà, sans photographie du pape, ça permettait effectivement d'avoir un accès peut-être à ceux qui ne sont pas des catholiques ou des fidèles du pape, qui ne sont pas dans une papolatrie quelconque. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, on a un très beau discours sur la littérature, magnifique. Je l'ai dit, j'aurais mis 20 sur 20 si le pape avait été, à d'une plaise, mon élève, j'aurais dit, voilà, c'est quand même un superbe discours sur la littérature.
Mais alors, le côté révolutionnaire.
Alors, le côté révolutionnaire, il n'est pas là. Et voilà, le côté, là. Ça, c'est le côté, disons, très complet de présentation de ce qu'est du rôle de la littérature. Le côté révolutionnaire, il est ailleurs. Il est dans l'implication du magistère pontifical, parce qu'il y a quand même un magistère là-dedans qui s'exprime, il y a une autorité là, et qui est là tout à fait étrange et sidérant. Parce que ce que dit le pape, c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre habituellement. Il dit en fait, au bout du compte, c'est lorsque vous êtes ennuyé par un texte, et je pense qu'il faut prendre ce terme d'ennui au sens très très fort, hein, celui qu'on a chez Pascal, mais c'est là, en fait, c'est
la gêne.
Vous êtes la gêne, lorsque vous êtes mais vraiment gêné, torturé, choqué, consterné par un texte, que c'est là que le texte devient intéressant. Et donc, vous avez là un pape qui vous dit, au bout du compte, les textes les plus intéressants à lire pour un séminariste, qui s'adresse d'abord à des séminaristes avant de dire que ça vaut pour tout le monde. Les textes les plus intéressants pour, si l'on veut comprendre, eh bien, le fond même de l'âme, de la psyché, etc., ce sont les textes qui vont vous choquer. Ce sont les textes qui vont vous provoquer. Parce que c'est à ce moment-là que, quelque chose se passe en vous. C'est-à-dire que vous êtes provoqué, et c'est à ce moment-là que, et c'est l'expression du pape, que le bon esprit agit en vous. Alors on peut dire, voilà, c'est l'Esprit Saint, etc. Mais il y a une réaction, qui est une réaction de type psychologique, morale, on peut avoir une lecture plus théologique et plus spirituelle de la chose, bien sûr, et c'est celle du pape, où là, en fait, cette réaction-là montre qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin. Et donc on a ici un pape qui dit, mais lisez la littérature, mais ne lisez pas, il ne cite pas les grands noms de la littérature chrétienne catholique. Il ne cite pas Dante, il ne cite pas Claudel, Peggy, Bernanos, voilà, qui sont des monuments de non seulement de la littérature chrétienne catholique, mais aussi de la littérature tout court. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas cela qu'il cite. Il cite Cocteau, il cite Celan, Proust. La première, enfin la citation la plus importante qu'il fait, c'est celle de Proust. Proust qui est il cite Borges, bien sûr, qu'il a connu personnellement en Argentine. On pourra y revenir. Mais qui sont Proust, Borges, sont des auteurs qui sont totalement religieux. Hein. Ils n'ont aucun discours sur le christianisme. Ils ne sont pas des chrétiens. Voilà. Ils ont un autre rapport à la. Ils ont trouvé une transcendance artistique. Mais en tout cas, c'est pas une transcendance spirituelle au sens chrétien. Et ce sont les vraies références du pape. Et donc, on a là un pape qui nous dit, au bout du compte, il faut lire la littérature et il faut lire. Quasiment, je pousse un peu le bouchon un peu plus qu'il ne le fait, mais c'est mon rôle en tant qu'interprète, hein, et que lecteur. Au bout du compte, il faut lire surtout la littérature qui vous choque et qui vous concerne. Et effectivement, lisez, si vous lisez si vous lisez Dostoïevski, Dostoïevski nous présente des choses, alors c'est un chrétien, Dostoïevski, hein, donc, mais évidemment, il veut nous confronter au fond même aux abîmes qu'il y a dans l'âme. Mais en fait, tout peut être lu. Tout peut être lu. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on sort ici de tout un paradigme qui avait été longtemps présent dans l'histoire de l'Église catholique, disons depuis le Concile de Trente, à savoir ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la conformité doctrinale entre la littérature, les textes qu'on lit, et la conformité de ces textes avec le message chrétien, évangélique, le message de l'Église. Et donc il fallait, c'était le projet de la réforme tridentine, hein, il fallait absolument que les chrétiens, les catholiques surtout, lisent des textes conformes au message de l'Église catholique. Et donc le pendant de ça, c'est l'institution de l'index, le fameux index, des livres interdits qu'on interdit à la lecture, index qui s'est qui a une histoire très longue depuis le XVIe siècle jusqu'en 1966, parce qu'il n'a été aboli qu'en 1966 par Paul VI. Bien. Et c'était cette histoire-là qui était en gros, il fallait que le fidèle catholique lise des textes qui soient conformes au message catholique. C'est assez logique. Au bout du compte, on a ça dans n'importe quel régime, voilà, qui veut avoir une sorte de cohérence entre son peuple et puis la doctrine qu'il porte. Et encore, il y a 25 ans, je parlais de la lettre de Jean-Paul II aux artistes, donc 1999. Très belle lettre, mais Jean-Paul II disait aux artistes, il s'adressait directement à eux, alors moins à la littérature, hein, il parlait moins de littérature plutôt qu'aux arts plastiques, visuels, aux musiciens, il disait, voilà, il s'adressait aux artistes en leur disant, voilà, inspirez-vous de l'évangile, des mystères de la foi pour créer. Et il disait, il y a cette expression qu'on a dans la lettre de Jean-Paul II, à savoir, il y a un art authentique. C'est assez cet art qui est inspiré de la foi. Sous-entendu, il y a un art inauthentique, celui qui est moins bien, celui qui n'est pas inspiré par la foi. Donc il y avait une sorte d'échelle de valeur liée à la conformité doctrinale. Et bon, ben, jusqu'à cette lettre du pape François, on était dans ce système-là. Et le pape François dit, ben, il dit quelque chose de très différent, puisqu'il dit qu'en fait on peut tout lire.
Et vraiment, moi, ce que je trouve peut-être de plus vertigineux dans ce texte du pape, c'est d'écrire « Les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées ». Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça dit. Parce que « a priori » a un sens technique en philosophie, ça veut dire « avant l'expérience ». Autrement dit, il n'y a de discernement entre le bien et le mal que dans l'expérience que nous en faisons. Et donc, il faut que nous fassions une expérience du mal, la littérature se présentant comme cette chose absolument paradoxale qui fait que vous pouvez aller au cœur du mal sans vous impliquer d'une manière qu'on pourrait qualifier d'amorale ou d'immorale. Et là, vous jouez un coup, à mon avis, très très fort en disant que ce pape est infiniment plus libéral que même mouvement progressiste de conscientisation radicale. Je me suis mis, en lisant ça, je me suis mis à ronronner.
non, mais je suis d'accord. Il faut relire cette phrase du pape, parce que effectivement, je pense que c'est la phrase la plus importante, et que je me demande comment ça a pu passer. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Mais c'est très fort, et je crois que c'est très vrai, et c'est conforme. En fait, je dis, il y a un changement un peu révolutionnaire, mais c'est conforme à quelque chose qui est en fait une beaucoup plus longue tradition du christianisme, en fait, qui remonte à très loin. Mais relisons cette phrase. Les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire par avance, voilà, ou qu'il y a une frontière claire entre le bien et le mal. Et il faut effectivement faire l'expérience, vous l'avez dit très bien, du mal. Alors, attention, le pape n'invite pas à pécher, hein, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que la littérature, c'est la manière qu'on a, qui est la plus extraordinaire, de pouvoir s'approcher du mal, quasiment de l'intérieur, mais sans soi-même entrer dans le mal commettre le mal. On peut lire la phrase suivante, hein, qui dit ça. L'acte de lecture s'apparente donc à un acte de discernement. Voilà, le mot est important, je pense, particulièrement jésuite. Par lequel le lecteur est impliqué personnellement en tant que sujet de la lecture et en même temps objet de ce qu'il lit. En lisant un roman ou une œuvre poétique, le lecteur vit l'expérience d'être lu par les mots qu'il lit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la littérature elle-même vous invite à participer à la construction de l'expérience dont vous lisez le récit. Et plus que n'importe quel autre médium artistique, le langage, et je crois que la question là du verbe et du langage est absolument essentielle ici pour le pape. Il y revient en disant qu'en bout du compte, la mission fondamentale de l'écrivain, c'est de nommer les choses. C'est la mission donnée par Dieu à Adam. Voilà, c'est nommer chaque chose. Et donc c'est la mission du poète, de l'écrivain, c'est de faire entrer le réel dans le langage. Et donc si l'on est dans la continuité de cette mission, eh bien, il faut lire tout cet effort de nomination du monde par les écrivains et de tout le monde, du monde entier, c'est-à-dire bien et mal. Et voilà, le langage doit pouvoir tout dire de cela. Et le langage est une manière d'entrer dans cette expérience la plus directe possible des abysses du mal. C'est le terme que vous avez employé. Je pense pas que le pape l'emploie directement dans le texte, sans commettre le mal soi-même. Voilà. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est la magie, si je puis dire, ou du langage qui est, on peut dire c'est le verbe avec un grand V ou un petit V, peu importe, mais qui est absolument fondateur de conception du divin et de l'être humain comme étant image de Dieu, fait à l'image de Dieu. Je me situe dans le discours chrétien, et en même temps du point de vue psychologique psychanalytique, on n'a pas besoin d'aller là. On sait que, Lacan le disait, l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire que le langage est absolument fondateur dans la structure de la psyché. Et donc rien ne pourra remplacer, du point de vue là, la littérature comme art du langage. Et donc c'est assez extraordinaire de voir là un pape qui dit, il faut lire tout. Et ça s'apparente beaucoup. Je disais que c'était révolutionnaire, mais il y a en fait, c'est le retour à une très très longue...
Oui, il y a une continuité, il n'y a pas que de la rupture, une longue histoire en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme souvent les révolutions sont souvent en fait les retours à une tradition plus ancienne, plus longue. Vatican II, c'était un peu ça aussi, je pense que ça c'est un peu...
Oui.
Quand on regarde l'histoire du rapport de l'Église à la littérature, j'ai un peu réfléchi, j'en ai un peu écrit là-dessus dans la haine de la littérature, précisément, puisque je parle de ces discours contre la littérature, et on voit que le discours chrétien des premiers pères de l'Église sur la littérature était un discours éminemment complexe et ambigu, très ambivalent, et qui n'a absolument rien à voir avec ce paradigme de la conformité doctrinale qui s'est instauré à partir du Concile de Trente. Mais même avant, je remonte un peu le temps, mais avant le Concile de Trente, prenez Thomas d'Aquin, quelqu'un comme Saint Thomas, c'est quelqu'un qui dit qui fait un éloge de la poésie comme une manière de dire un éloge de la métaphore poétique parce qu'elle est seule capable, par son affirmation de l'infirmité même de la faiblesse du langage, parce que la métaphore poétique se présente effectivement comme une manière de dire indirectement la réalité, mais elle ne veut pas mentir sur le, elle peut dire le divin, la métaphore est capable de dire le divin indirectement. Le divin ou l'infini est impossible à dire de le langage, mais saint Thomas dit la métaphore poétique est quelque chose qui s'appuie sur cette infirmité du langage, et en promouvant l'infirmité du langage, en se présentant comme étant la poésie, en se présentant comme incapable de dire le réel tel qu'il est, en ne voulant pas prétendre à dire le réel tel qu'il est, mais en recourant aux images, en recourant à la métaphore, la poésie est la manière la plus juste de parler du divin. C'est assez incroyable. On a ça chez Thomas d'Aquin, qui est à dire un grand, me semble-t-il, théologien, me semble-t-il. Mais cette question de la conformité doctrinale, c'est une question qui s'est posée éminemment aux premiers chrétiens, aux premiers pères de l'Église. Et c'est très intéressant de voir comment ces grands premiers pères de l'Église ont essayé de résoudre le problème, parce que le problème était celui-ci, à savoir, tous ces grands intellectuels chrétiens, qui arrivent dans un monde qui est païen, où toute la culture qui est portée dans les écoles, qui informe l'Empire romain, est une culture païenne. Et la question qui se posait au père de l'Église, c'est que faire de cette culture païenne, qui était la base même la base même de la culture antique, de la culture dominante de la société. Et c'est là qu'on a des textes tout à fait, alors des gens comme Jérôme ou Augustin se posent la question, ils y répondent et ils sont un peu ambivalents, mais ils ne veulent pas rejeter en bloc la culture païenne. Mais le discours le plus intéressant qu'on a sur ce sujet, c'est celui de Basile de Césarée, Saint Basile, dans sa lettre aux jeunes gens sur la manière de tirer parti des lettres helléniques, donc de la littérature grecque. Et Basile de Césarée dit, voilà, en fait, il faut bien sûr lire les grands poètes païens, les grandes œuvres, les tragiques, Homère, parce que même, en fait, il y a une capacité, on a une possibilité de lire de manière allégorique les textes. Il y a les textes littéraires peuvent être ont plusieurs niveaux de sens. On entre dans ce système de lecture allégorique qui va être peu à peu développé à cette époque-là. Et donc, on peut lire même les aventures les plus scabreuses d'Homère. On peut les lire de manière comme une incitation à la vertu. Les pères de l'Église ne disent, la plupart d'entre eux disent qu'il faut continuer à lire, à s'informer, à être formé dans ces lettres païennes parce que on est capable de lire de manière allégorique les textes. Et par ailleurs, je remonte, si vous voulez, de manière antichronologique depuis Thomas d'Aquin, Basile, et puis, au bout du compte, ce que dit le pape ici, François, c'est le retour, me semble-t-il, à un message évangélique de base, enfin c'est le message de Jésus dans les évangiles, à savoir que il parle des interdits alimentaires, mais ça peut se comprendre d'un point de vue plus spirituel et autre. Ce n'est pas ce qui entre par la bouche de l'homme qui va le souiller, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Vous connaissez cette parole célèbre de Jésus, à savoir que c'est pas ce qu'on absorbe de l'extérieur qui est le mal, c'est ce qui est produit par l'être humain. Eh bien, le pape François ne dit pas autre chose, à savoir que on peut lire des textes qui peuvent être des textes extrêmement choquants, même des textes qui pourrait même défendre des idées opposées au christianisme, mais dans la mesure où l'on réagit à cela, cette réaction-là, elle est bonne, elle est même le signe que, comme dit le pape, le bon esprit agit dans le lecteur. Et donc, il y a là une conformité totale à tout ce que dit, me semble-t-il, Jésus dans l'Évangile, à savoir que, c'est ce qui émane de l'être humain qui compte. Et la question des souillures qui viendraient de l'extérieur, c'est une fausse question. C'est une question qui vient de religion plus archaïque, disons. Et il y a un dépassement ici d'un archaïsme religieux qui est proposé par l'Évangile et auquel revient strictement François.
Est-ce que vous diriez que Jésus aussi fait de la littérature, finalement?
Oui, je parlais tout à l'heure de la métaphore poétique chez Thomas d'Aquin. Donc il y a cet éloge de la poésie chez Thomas. C'est quelque chose qui a été relevé avant moi par Umberto Eco, qui avait fait sa thèse sur justement les réflexions poétiques dans les sommes de Thomas. Mais quand on regarde bien l'Évangile, en fait, l'Évangile lui-même est plein de textes éminemment choquants. Ce sont toutes ces paraboles que nous avons et qui sont totalement qui choquent même les disciples et qui choquent tout lecteur. Je veux dire, aller raconter un athlète que les premiers seront les derniers seront les premiers, quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible comme cela et immédiatement. Et il y a quantité de paraboles qui sont mais totalement aberrantes d'un point de vue moral. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Évangile, Jésus utilise ces paraboles sciemment. Et il y a une théorie de la parabole qui nous est donné, parce que les disciples sont choqués, ils posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, vous connaissez la réponse. Alors je reprends le terme qui est, je l'avais, voilà. Je vais revenir. Voilà. Vous reprenez toutes ces paraboles qui sont éminemment choquantes, la parabole du fils prodigue aussi. Totalement aberrante par rapport à une conception, disons, commune de ce qu'est la morale, les ouvriers de la 11e heure. Et les disciples sont choqués, ils posent la question à Jésus, pourquoi leur livre-t-il des récits de nature si énigmatiques? Il répond, voilà, Matthieu 13, 12, 13, celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre, ni comprendre. Et sous cette forme-là, ce qui est dit par Jésus, me semble-t-il, c'est la définition même du cercle herméneutique. C'est-à-dire que la parabole n'est compréhensible que par ceux qui ont déjà en eux compris le message évangélique lui-même. Donc le sens est toujours construit par le lecteur, ou par l'auditeur en l'occurrence, puisqu'il s'agit de paraboles qui étaient dites à l'oral. C'est-à-dire qu'en fait, aucun sens littéraire ne nous est imposé de l'extérieur. Nous sommes toujours responsables du sens que nous donnons au texte. Et c'est pourquoi je trouvais intéressant ce que vous avez dit. Effectivement, actuellement, il y a beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués par des textes. On emploie ce terme de wokisme. J'emploie pas tellement ce terme parce que il est trop vague, trop grossier. C'est des mouvements de conscientisation radicale, hein, qui consistent à essayer de purifier en fait la société à partir des textes, en faisant une sorte de censure, en évitant de lire les textes qui vous choqueraient. On voit ça dans les universités parfois, beaucoup outre-Manche, surtout outre-Atlantique, mais ça arrive aussi ici. Il y a des textes qu'on pourrait pas lire parce qu'ils seraient trop choquant. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que le pape, de ce point de vue-là, est beaucoup plus libéral que ces mouvements de conscientisation radicale qui souvent agissent du reste pour défendre de très bonnes causes, contre les discriminations, etc. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est choqué par un texte que le texte ne doit pas être lu, au contraire. Parce qu'en fait, vous êtes toujours capable, à partir d'un texte qui vous choque, de développer une responsabilité personnelle, une lecture qui vous est propre, et votre réaction qui consiste à être provoqué, à être choqué, elle honore celui ou celle que vous êtes, et elle vous construit en fait. Qu'est-ce que serait une littérature qui ne raconterait que le bien du monde, qui ne raconterait que le blanc dans le monde, sans parler du noir? Ce serait une littérature, à mon sens, totalement inintéressante. On reviendrait, en gros, ces mouvements de conscientisation radicale sont en train de créer, à certains égards, une sorte d'index, un autre index des livres interdits, qui est un index, qui pourrait recouper du reste, à certains égards, les livres aussi interdits par l'Église catholique pendant certains siècles, parce que ça peut se recouper. Et je trouve que cette idée que nous sommes, que chaque lecteur est renvoyé à sa responsabilité morale face au texte, c'est vraiment un message de liberté totale qui nous est donné par le pape et qui correspond à un message de liberté évangélique, au bout du compte. Jésus ne cesse de le dire, me semble-t-il, dans la scène de la femme adultère, où au bout du compte, juger, c'est toujours se juger soi, c'est toujours se juger soi-même. Juger mal d'un texte, c'est ne pas voir le mal qui est en soi déjà. Et voilà, je trouve que ce message d'ouverture, de liberté, de renvoi à la responsabilité du lecteur et du fidèle face au texte, je trouve que c'est un message. Je ne parle pas ici en tant que chrétien, que catholique, etc. Mais quand même, je trouve que pour un chef religieux, dire aux fidèles, ben en fait voilà, c'est la responsabilité, elle est en vous face au texte. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare parmi l'ensemble des chefs religieux de ce monde, quelle que soit la religion. Et je crois que qu'on soit religieux, qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas, je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, parce que quand même c'est pas fréquent quand même qu'un chef religieux de la voilà du niveau du pape, du chef de l'Église catholique, dise aux fidèles, hein, vous êtes capable de tout lire. Vous avez les clés.
Il a une autre expression qui a retenu d'ailleurs votre attention. Il parle de gymnase. Alors je ne sais pas, c'est parce qu'on était gymnase du discernement. Que la littérature est. D'ailleurs, je crois que vous-même vous êtes allé vérifier parce que si la traduction était bonne, je crois que l'italien c'est Palestra.
Palestra. Ouais. Ouais. Donc c'est bien ça. C'est bien la. Oui. Non, c'est un bel. Gymnase. Alors ça renvoie en fait à toute une tradition. Chrétienne, hein, ne serait-ce déjà que évidemment Saint Paul, hein, qui dit voilà le chrétien doit, enfin il y a l'idée voilà de l'entraînement, hein, il y a l'idée athlétique, elle est déjà dans les épîtres pauliniennes, hein, il y a le rapprochement entre le sport et l'entraînement spirituel, il est déjà fait par Paul. Mais évidemment, on pense, évidemment, nous sommes aux facultés de Loyola, aux exercices, à la question de l'exercice, de l'entraînement, un gymnase du discernement. Effectivement, il faut entraîner le discernement. Et je pense que là, le pape s'adresse aux séminaristes, essentiellement. Hein. C'est-à-dire que c'est pas en restant, si je peux dire, cloîtré, enfermé dans un type de corpus littéraire qui serait uniquement conforme à la doctrine de l'Église, qu'on va se former à la complexité, à la diversité du monde. Et donc il faut entraîner ce discernement, et la manière de le faire, c'est effectivement par la littérature. Ça m'a aussi renvoyé à d'autres images. Je trouve que Paul Valéry, sur qui j'ai beaucoup travaillé, a aussi beaucoup dit que la poésie était un exercice intellectuel, un exercice du langage. Et voilà, il faut entraîner l'esprit. Alors c'était pas un entraînement moral pour lui, c'était autre chose. Mais voilà, la poésie comme entraînement, comme exercice. Je trouve que c'est aussi une bonne manière de défendre la littérature. Mais oui, être l'idée que nous devant chaque texte, nous soyons en fait renvoyés à notre propre responsabilité, à quand même une épreuve qu'il s'agit de surmonter. C'est quand même très beau, quand même, comme façon de faire. Avec en plus, autre chose peut-être dont on n'a pas parlé, mais c'est peut-être une question que vous alliez poser, je ne sais pas, à savoir que il y a, le pape le dit explicitement, hein, il y a dans tout texte quelque chose à sauver. Même un texte qui serait absolument pas conforme à la doctrine, hein, voilà. Alors c'est des choses que c'est amusant parce que je me souviens j'étais au Japon et dans un monastère bouddhique un prêtre bouddhiste nous avait expliqué que en fait il y a toujours même dans le mal il y a jamais totalement mauvais, il y a toujours au moins 1%, 2% de bien à récupérer. Bon, et je trouvais l'image très belle, voilà. Le pape ne dit pas autre chose, hein. Il dit la même chose, à savoir qu'il y a toujours, je crois, quelle est la formule, voilà, toutes les paroles humaines portent la trace d'une nostalgie intrinsèque de Dieu, tendant vers cette parole. Bon, pour les chrétiens, la parole est Dieu, et toutes les paroles humaines portent la trace d'une nostalgie intrinsèque de Dieu, tendant vers cette parole. Et il y a donc toujours une sorte de Dieu inconnu, qui serait là un peu présent. Je dis inconnu, c'est la formule, se trouve évidemment dans les Actes des Apôtres. Hein, c'est quand Jean Paul est sur l'Aréopage et qu'il voit cet autel au Dieu inconnu. Et il dit, voilà, aux Athéniens, ce Dieu inconnu que vous honorez, en fait, moi, je vais vous le... vous le révélez. Ça marche pas très bien, comme vous le savez. Mais cette idée, voilà, qu'il y a en fait que même dans les textes non chrétiens, dans les textes, il y a une sorte de Dieu inconnu qu'on pourrait essayer de retrouver. Je trouve cette idée très belle. Et même pour un non-chrétien, même pour un non-croyant. Et c'est pourquoi j'en ai parlé, et c'est pourquoi je trouvais que ça intéressant. Parce que je crois que, effectivement, alors, pour un chrétien, effectivement, l'idée que, il y aurait effectivement que l'Esprit Saint, je pense, c'est comme ça qu'on pourrait s'exprimer, parlerait à travers même la bouche de ceux qui ne sont pas consciemment croyants et qu'il y a voilà, qu'il y a toujours quelque chose à sauver en chaque être humain. Je crois que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, correspond à une certaine vision qui a sa tradition dans l'Église catholique. Mais au-delà de ça, enfin, au-delà ou en deçà, peu importe. Mais moi, je parle ici en tant que littéraire. Je crois réellement que quand on lit de la littérature, en fait, croyant ou pas, et là je suis pas croyant, enfin je sais pas, en tout cas c'est pas ça qui m'intéresse ici. Je crois qu'on est toujours un petit peu croyant face à la littérature. Quand on lit de la poésie, quand on lit du roman ou du théâtre, etc., on a toujours un peu l'idée que ce texte qu'on est en train de lire va nous révéler quelque chose du sens de notre vie, va nous révéler une vérité, va nous importe en quelque chose, nous apporte un peu de un salut. Alors pas le salut avec le grand S, forcément.
Pourquoi pas,
en tant que chrétien, mais même en tant que non chrétien, cette idée que tout texte littéraire qu'on lit va nous révéler une vérité qui nous importe, je crois que c'est quelque chose qui est très vrai. Et ça vaut pour des lecteurs non-croyants. Et donc ce que dit le pape, à savoir que toutes les paroles humaines portent la trace d'une nostalgie intrinsèque de Dieu, moi j'en fais moi-même une lecture allégorique, profane. À savoir que il y a en fait dans tout texte littéraire, à certains égards, une sorte de vérité, de salut qui se propose au lecteur et qui fait la valeur des textes littéraires.
Avec... cette chose absolument, alors là aussi vertigineuse, quand le pape reproche à Jean Cocteau d'avoir écrit à Maritain en lui disant que la littérature ne sauvait pas et que c'était la foi qui sauvait. Et le pape dit non. Et je trouve ça, alors pour un croyant, pour le croyant que je suis, c'est un des lieux où vraiment on peut faire apparaître ce qu'est la foi. Dégagé de toute religiosité, piété.
Oui,
c'est vraiment. Et ça vous le faites apparaître très bien.
Oui, c'est un passage qui m'a tout de suite frappé. Et je suis presque tombé de ma chaise en lisant ce passage de la lettre pontificale. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, Jean Cocteau écrit à Jacques Maritain en disant, mais au bout du compte. La littérature est impossible. Il est un moment de doute. Lui-même était très, voilà, il était croyant, en tout cas travaillé par la foi. Il était à ce moment-là, il écrit à Maritain. La littérature est impossible. Il y a que la foi, que la prière qui peut nous sauver. Et le pape dit, mais non, pas du tout. Cocteau a tort. La littérature est capable de nous apporter le salut. Qui est recherché par Cocteau. Donc il reproche en fait, il prend le contre-pied, donc il devient plus poète et plus apôtre de la littérature que ne l'est Cocteau, ce qui est quand même un peu difficile. Mais en fait, il reproche à Cocteau de ne pas être un assez bon chrétien, d'avoir une conception trop simpliste de ce qu'est la foi et de ce qu'est, je pense, le salut qu'on peut avoir par le
ou son peu de foi en la littérature finalement.
Et oui, parce que voilà que Cocteau n'aurait pas compris en fait qu'il y a la possibilité, même en lisant des textes de Cocteau qui ne sont pas des textes chrétiens, il y en a en fait qu'on est capable là aussi de trouver une voie vers quelque chose qui nous élève et qui nous découvre des réalités qui nous sont importantes. Je suis persuadé qu'en décrivant cela, enfin, le pape ou avec ses acolytes, hein, ceux qui l'ont aidé à écrire sa texte, ils ont quand même beaucoup ri, parce qu'il y a quand même une sorte d'humour, de renversement là de position qui est assez incroyable, de voir le pape prendre la défense de la littérature contre Cocteau. C'est assez sidérant.
Alors pourquoi, le temps passe vite, hein, donc on arrive à la fin de notre heure, et puis je crois que vous devez avoir très envie de poser des questions, mais quand même, puisqu'en fait c'est aujourd'hui, on remettait le prix Goncourt, donc à Kamel Daoud, et je me dis, aujourd'hui, pourquoi écrire une lettre comme ça pour défendre la littérature? Est-ce que la littérature, est-ce qu'elle a besoin d'être défendue? Est-ce qu'elle a perdu un peu de son aura, de son prestige? Pourquoi aujourd'hui, quoi, en fait, faire une lettre comme ça pour défendre la littérature.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans les séminaires, mais je pense que là, il y a effectivement une inquiétude du pape, en pensant qu'il y a effectivement là toute une source de formation, de maturation intellectuelle et spirituelle pour les séminaristes qui est ratée, et que effectivement, il y a actuellement une concurrence énorme faite à la littérature par quantité d'autres types de discours. Alors le pape pense évidemment aux autres discours langagiers, hein, à savoir qui ne sont pas nommés, hein, la philosophie, la théologie, la sociologie, l'histoire, la psychologie. Et ce que dit le pape ici, c'est que au bout du compte, la littérature permet justement de ne pas s'enfermer dans une représentation normative, hein, du monde, et qu'elle permet de rentrer dans l'ambiguïté, hein, ce que ne permettent pas les textes qui sont beaucoup plus directement conceptuels, hein. Et ça, c'est assez fort. Donc il y a déjà une concurrence très claire entre le discours littéraire et les discours à prétention scientifique, sciences humaines, sociales, philosophiques, théologiques, etc. Bien. Une chose. Et du reste, là, il y a un petit... Je dirais que c'est un peu une réponse, de ce point de vue-là, même si ce n'est pas explicite. Mais je pense qu'il y a quand même un déplacement, disons, de Benoît XVI, philosophe, à François, qui est lui plutôt un littéraire, à certains égards. Et donc Benoît XVI a beaucoup insisté sur le rôle de la philosophie. Et là, on a plutôt ici une défense de la littérature. Donc il y a déjà quelque chose qui est une sorte d'ajustement par rapport à des discours précédents. J'ai cité Jean-Paul II, Benoît XVI, et là maintenant François. Et puis, alors de manière plus globale, je pense qu'il y a évidemment, mais ça c'est évident pour tout le monde, une concurrence énorme de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire en particulier tout ce qui nous vient par les écrans. L'audiovisuel, je citais le cinéma, mais les écrans, c'est surtout les écrans de nos téléphones, de nos ordinateurs, tout ce qui nous arrive comme ça et qui accapare notre attention, et beaucoup plus celle des jeunes, et que des gens plus âgés. Et donc il y a un danger, me semble-t-il, que relève le pape, et il pense, à juste titre, me semble-t-il, que les séminaristes, qui sont souvent des gens jeunes, hein, devraient aussi profiter de ce temps de formation pour faire l'expérience de la littérature. Et que si le séminaire sert à ça, ça pourrait être utile. Et je crois que la littérature a aussi, me semble-t-il, un rôle particulier à jouer parmi tous ces autres moyens de communication, de culturel, artistique, etc., et qui ont leur valeur, hein, propre. Je pense pas. Voilà, je citais le cinéma. Bon, il y a des chefs-d'œuvre, etc. Mais enfin, les écrans, tout ça, qui accaparent notre attention, ils dépendent d'une technologie assez complexe. Il faut avoir un téléphone, un ordinateur, il faut aller au cinéma, il faut avoir une télévision, on dépend d'énergie. Enfin, ça coûte. Il y a un bilan carbone de tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, on peut faire l'économie carbonée ou financière de tout ça est énorme. Il y a tout un dispositif très complexe technologique qui permet aux écrans d'accaparer notre attention. Je dirais que c'est une chose à quoi le pape fait allusion au tout début de la lettre, À savoir qu'en fait, la littérature, le texte, il se donne à nous tout simplement. On passe et là, on peut le lire, cette phrase quand même, c'est...
Elle est belle, cette phrase. Ah. Sur l'oasis.
Voilà, allez-y. Lisa.
Mais oui, mais je la trouve pas.
Si c'est phrase 2. Enfin, voilà. Alors, souvent, dans l'ennui des vacances, dans la chaleur et la solitude de certains quartiers déserts, trouver un bon livre à lire devient une oasis qui nous éloigne d'autres choix qui ne nous feraient pas du bien. Et là, je trouve qu'il y a une expérience personnelle que chacun peut avoir lue, mais on sent aussi le, voilà, celui qui a été, voilà, prêtre en Argentine, archevêque, qui voilà, dans des quartiers pauvres, etc. Enfin, et c'est vrai que dans le livre, ben voilà, un livre, c'est imprimé, on peut le lire à la lumière du soleil, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin des livres, ça se trouve partout, et c'est un art pauvre, arte povera, comme on dit en italien, ça désigne autre chose, mais c'est un art pauvre, et qui correspond à une pauvreté évangélique, me semble-t-il, qui là aussi correspond à la mission de l'Église. C'est un peu ça que je trouve que nous dit le pape. Pauvre, mais en même temps d'une richesse absolue. C'est-à-dire qu'en fait, le livre nous arrive uniquement avec ses signes noirs sur la page. Pas besoin de... Ça coûte pas cher à faire. Et on peut en jouir à tout moment. Et cette pauvreté de l'art, c'est aussi ce qui fait sa richesse. C'est-à-dire que nous sommes obligés, ce qu'on disait tout à l'heure, de participer, c'est-à-dire d'enrichir tout ce qu'il y a dans le livre, dans le texte, par notre propre psyché. Et donc cette pauvreté fait aussi la force même de la littérature. Paul le disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et ben c'est la littérature, c'est ça. La littérature est très très pauvre par ses moyens. Le langage est accessible à tous. On peut dire que c'est de loin l'art le plus démocratique, accessible à tous. Et c'est pourquoi la littérature permet d'entrer en contact avec le monde, parce que n'importe qui peut écrire et on trouve des textes partout. Il y a des textes écrits par tout le monde Donc c'est un art accessible à tous, et donc tout le monde peut raconter son expérience dans les textes. Et je pense que si l'on veut se confronter à l'expérience du monde, à l'expérience du prochain, des prochains, ben voilà, il faut lire les textes écrits par tous. C'est un peu ce que j'essaie de faire en tant que comparatiste. C'est une tâche impossible. Mais enfin, mais voilà, c'est un art démocratique et pauvre, et donc qui a en cela cette richesse inégalable.
Merci beaucoup de nous avoir transmis votre enthousiasme. Est-ce que alors maintenant peut-être des questions Oui, alors un micro va circuler.
Alors, je ne suis pas spécialiste du pape ni de François, je suis spécialiste de littérature. C'est vraiment en tant que littéraire que j'intervenais. Ce que je dirais, c'est que c'est un peu ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que réellement, il y a dans la littérature un art foncièrement démocratique. Je crois que c'est cette idée-là que le langage est ce qui permet d'unir les êtres entre eux. C'est cette idée-là qui est fondamentale. Donc, s'il y a une dimension sociale, je la vois là. Mais je suis pas assez spécialiste du discours de François pour développer ça.
Après, peut-être sur le contact au réel.
Au réel, oui.
Ça, je trouve que c'est important parce que souvent, quand on dit la littérature, ben non, parce que moi, je préfère le réel à la fiction. Donc, que répondre à ça, oui, justement par le contact au réel. Enfin, je trouve que ça c'est un point important.
Ben, c'est-à-dire que la littérature, alors il s'intéresse surtout à deux formes de type de discours littéraire, essentiellement le roman et la poésie. Bizarrement, il ne cite pas le théâtre, alors qu'il parle des abysses, oui, de l'âme humaine. On peut penser à la tragédie, et pour moi c'est un peu en dessous. Peut-être parce que Jean-Paul II lui-même avait fait beaucoup parler du théâtre, en avait fait lui-même, donc peut-être que François veut se situer plutôt du côté du roman, la poésie. Donc vous voyez, je pense qu'il y a plein d'implicites choses qui se disent, qui se font là. C'est assez non. Et pour autant, les jésuites, on le sait, ont aussi une expérience de l'enseignement par le théâtre qui me semble très très importante. Je reste dans l'éducation. Mais je crois que ce que le Pape dit concernant le roman, la poésie, c'est qu'en fait, ce sont des genres littéraires qui nous permettent d'entrer directement dans une expérience, dans l'ambivalence de l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message qui ne soit mâché, en quelque sorte, par le roman ou par la poésie. C'est à nous de construire le sens même des textes, des histoires que nous lisons ou des poèmes. Bah, c'est aussi ce que fait Jésus avec les paraboles. Hein, au bout du compte, les disciples sont obligés de construire le sens même des paraboles. Et il faut rentrer dans ce. Alors j'aime beaucoup cette formule de François. Il faut rentrer dans l'humilité de la non-simplification. L'humilité de la non-simplification. Ça renvoie à ce que nous disait tout à l'heure, à savoir que les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. C'est-à-dire que le roman, la poésie, la fiction nous donne une expérience, ou un succès d'années d'expérience qui est le plus proche de l'expérience même. Et donc, on est dans l'a posteriori, dans quelque chose que nous construisons. Nous ne sommes pas dans l'a priori. Donc dans des jugements qui seraient préconstruits par des catégories qui nous viennent de la théologie, de la philosophie, de nos conceptions morales. Et tout ce que je pense, me semble-t-il, tout ce que nous dit Jésus dans les évangiles, c'est au contraire, il faut sortir des a priori. Et il faut... Oui, il y a encore des, je peux encore faire des citations de la lettre qui vont dans ce sens-là. Il faut rentrer, donc il parle de l'humilité, de la non-simplification, il faut rentrer dans la mansuétude de ne pas prétendre maîtriser la réalité et la condition humaine par le jugement. Ne pas juger, voilà, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Refuser, alors ça, voilà, j'adore aussi cette formule qui va toujours ça va dans le même sens, refuser une aride totalisation de la loi. Ça, c'est très très fort. Refuser une aride totalisation de la loi. C'est-à-dire que nous pourrions avoir, par la connaissance, j'imagine que le chrétien, que le fidèle a de la loi, pourrions avoir une connaissance complète de la réalité dans tous les cas, a priori. Or justement, c'est ça, c'est que ce que la littérature nous donne, selon le pape, c'est justement une confrontation à une diversité, une complexité qu'on ne pourrait pas avoir autrement par une approche purement philosophique, conceptuelle, voilà, abstraite. C'est sortir de l'abstraction. Donc, sortir de l'abstraction pour aller dans la réalité. Voilà. Oui.
Je voudrais me risquer à évoquer une dimension un peu, peut-être, irénique que j'ai trouvée dans le texte, qui est double. Il y a, il me semble, un peu d'irénisme par rapport à la puissance de la littérature. Je pense que la littérature peut avoir une puissance qui comme le disait Coetzee, ajoute vraiment du mal au mal. Et là, je citerai volontiers Céline. Et de la même manière, il me semble qu'il y a aussi un irénisme, ou une trace d'irénisme, c'est vraiment une critique à la marge, dans la capacité du lecteur à réagir. Il y a des œuvres qui vous captent, qui vous fascinent et qui vous entraînent, et parfois dans les abysses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un peu la limite de la confiance que met le pape à la fois dans le lecteur et dans la littérature?
Oui, c'est très 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 intéressant ce que vous dites. Effectivement, à certains égards, vous dites que le pape, au bout du compte, pense que la littérature ne serait que de la littérature, à certains égards. Dans un sens un peu péjoratif ou un peu dévalorisant de la littérature. J'aurais tendance à penser... il s'adresse à des séminaristes, d'abord, c'est ça. Donc, il pense que, les gens qui ont une formation intellectuelle, doctrinale, théologique, morale, tout ça, suffisantes, sont capables de faire face à la puissance de la littérature. J'aurais tendance à penser que son irénisme, s'il y a un irénisme, c'est plutôt dans une confiance dans l'être humain. Voilà, c'est plutôt ça que je verrais Bah, si je voulais défendre ce que dit le pape. J'entends ce que vous dites, à savoir qu'effectivement il y a des textes qui vous remuent considérablement. Il y a des textes séduisants, au sens de voilà le séducteur, la séduction, hein, des et c'est très vrai. Et en même temps, et je pense que ce qui est dit fondamentalement, à savoir que tout sens est construit par le lecteur, dans une participation, je crois que là c'est quelque chose de très très fondamental. Si on allait dans votre sens, au bout du compte, on irait dans le sens de tous ceux qui proposeraient une censure quelconque pour... Et je parle pas nécessairement d'une censure type index catholique, parce que c'est au bout du compte, dans la société actuelle, telle qu'elle est, on le regrette ou non, mais c'est pas ça qui est le plus menaçant. Ce qui est le plus menaçant, ce sont les censures qui viennent du bas, hein, bottom-up, par les individus eux-mêmes, les lecteurs, les étudiants, etc. Les censures silencieuses, hein, on parle, il y a des livres qui parlent de ça. Personnellement, moi, ça me choque énormément. Or, ma connaissance, par ma réflexion sur le sens des textes, l'herméneutique, la façon dont le sens est construit, je crois personnellement que tout texte, même le plus séduisant, le plus pervers, le plus, etc., abject, peut être l'objet d'une réflexion de type moral, avantageuse pour celui qui le lit, enfin, d'un point de vue plus moral classique et d'une réflexion éthique. Alors, on pourrait prendre, je pense qu'on peut très bien lire Sade, mais Sade c'est peut-être le cas le plus facile. On peut très bien lire Sade, c'est tellement choquant d'emblée que voilà, sans et rester imperturbable et au contraire avoir là des outils de réflexion. Mais je pense que il n'y a aucun texte dont le sens ne soit fixé par avance, clairement pas. Bien sûr, il y a des intentions de l'auteur, mais je pense que les textes, à certains égards, c'est des choses qui ont été montrées par une grande partie de la théorie littéraire, la déconstruction, Derrida, etc. Les textes sont toujours un peu plus complexes que ce que disent les auteurs. Donc j'aurais tendance à penser, que en fait il y a toujours la possibilité d'un contact non nocif avec les textes. Mais en revanche, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Ah, il y a du risque. Ça oui. Je crois qu'il y a du risque. Mais le pape ne dit pas l'inverse. Je ne crois pas qu'il dise l'inverse. Je pense les textes provoquent de l'ennui. Il peut y avoir du risque, mais c'est un risque qui vaut la peine d'être tenté. En tout cas, moi, c'est pas dire que tous les textes soient de la même valeur, hein. C'est pas la question. Il y a sans doute des textes plus intéressants que d'autres à lire. Et j'en suis le premier convaincu. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une capacité à pouvoir surmonter un sens déstabilisant d'un texte. Mais ce n'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas facile. Non. La puissance de la littérature, c'est quelque chose qui existe. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et il faut le dire aussi.
Merci pour votre intervention. Est-ce que aussi ce texte n'est pas une invitation pour les séminaristes et tout chrétien à prier mieux, parce que vous dites l'hymne est un poème, une métaphore du langage, la façon la plus juste de parler de Dieu. Dans le bréviaire et dans la liturgie des heures, il y a toujours une hymne au début de la prière, donc pour nous donner cette dimension.
C'est pas moi, hein, mais non, c'est effectivement
la faire pleinement nôtre.
Tout à fait. Alors moi, je n'ai pas d'autorité pour parler pour un éloge de la prière, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est effectivement, je pense que c'est quelque chose dans la grande tradition de l'Église, de la prière, chrétienne. Bah, il y a les psaumes qui sont déjà des moments souvent d'éminente poésie. Et puis il y a les hymnes qui ont été composés, et parfois par Thomas d'Aquin. Il y a de grandes hymnes dont Thomas est lui-même l'auteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit du christianisme et du catholicisme en particulier. C'est ce goût du catholicisme pour le beau comme étant un moyen d'accession à la vérité, à une élévation morale spirituelle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas, en tout cas pour ce qui est de la poésie.
Et d'autre part, j'ai bien aimé quand vous avez parlé de pauvreté intellectuelle, parce que moi, j'ai toujours dit que j'avais pas passé mon bac, que j'étais hermétique au latin et tout ça, mais que j'avais beaucoup lu, et notamment, j'avais sans doute le temps quand j'étais adolescente de lire. Parce qu'en fait, il faut aussi prendre le temps pour lire de la littérature. Parce que comme il faut se plonger dans le livre, dans la fiction, il faut s'y plonger, il faut essayer de bien visualiser les personnages, les situations. Et après, évidemment, ça vous poursuit un moment. Et ce que j'avais jeune, excusez-moi, mon expérience découverte, c'est que c'était un apprentissage pour nous, après, par la suite de la vie, nous faire rencontrer des situations auxquelles il nous faut, comme vous avez développé tout au long de votre intervention, réagir. Donc c'est quelque chose de nouveau, nos situations, nos épreuves, mais qui quand même, dans un arrière-fond, on a l'impression de les avoir déjà vécu vous voyez ce que je veux dire un peu.
Oui, tout à fait. Alors, ce que vous dites là est très très juste, à savoir cette.
Et après, c'est au troisième, quatrième âge, c'est la reconnaissance et de fait de continuer à lire des livres, par exemple Balzac, c'est quand même horrible tout ce qu'il décrit dans certains de ses œuvres. On est quand même confronté ou mal, et peut-être qu'on acquiert un meilleur discernement.
Ah, pire que Balzac. Mais je suis entièrement d'accord. J'entends. Non, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir le temps, l'énergie, l'effort que demande la lecture. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très fondamental qui, évidemment, dessert la littérature et qui en constitue en même temps la force. Je parlais des arts audiovisuels, des écrans, on pourrait parler de la musique. Il y a deux types d'arts, en quelque sorte. Il y a les arts qui s'imposent à vous, qui imposent leur propre rythme. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, l'art en question s'impose à vous par les sens, par la vision, par l'audition. Voilà, c'est les écrans, c'est la musique, et il y a des choses extraordinaires. Mais vous n'avez rien à faire, au bout du compte. Ah si, en fait, il y a des œuvres qui sont très exigeantes, qui demandent de la réflexion, on est d'accord. Mais il faut vous laisser faire, il faut vous laisser emporter. Après, vous devez réfléchir en même temps, ça demande de la concentration, bien sûr. Il y a des films, des musiques qui demandent beaucoup de concentration. La littérature, c'est un peu différent. La littérature, elle n'impose pas son rythme. C'est vous qui devez donner le rythme, c'est vous qui faites l'effort de lire sur la page les signes. Et je pense en particulier à la lecture. C'est vrai que quand c'est de l'audition, quand on écoute un livre audio qui existe, qui est pas mal du reste, c'est un peu différent. Mais lorsque vous êtes face à un texte, c'est à vous-même de faire cet effort-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, effectivement, peut-être dont il n'est pas facile de donner l'habitude à des enfants, à des jeunes, alors même que ces écrans sont tellement faciles, ils sont là, ils accaparent votre attention, vous êtes sur TikTok, et puis voilà, vous êtes emporté dans une demi-heure, une heure de visionnage de vidéos. La lecture, c'est l'anti-TikTok, clairement. Et c'est ça aussi sa force. Mais ça, pour ça, il faut en avoir fait l'expérience. C'est-à-dire que comme je disais, vous n'avez pas d'image, toutes les images, c'est à vous de les construire dans votre cerveau, en particulier lorsque vous lisez de la fiction. Hein. Vous êtes obligé de vous représenter les choses. Vous êtes obligé d'inventer vos propres images. Donc c'est un exercice cérébral incroyable, incroyable. Il faut le dire aux jeunes quand même qu'il faut exercer leur imagination. On parlait de gymnase tout à l'heure, de discernement. Mais là, l'exercice de l'imagination, l'exercice de l'invention visuelle par le langage, ça c'est quelque chose qui est irremplaçable. Mais il faut en avoir fait l'expérience pour le connaître et pour vouloir y revenir. Et je trouve que ce qui est extraordinaire dans la lecture, c'est que ça demande un effort. Mais lorsque vous avez lu un livre, lorsque vous avez lu un roman, un texte important, etc., que vous avez fait cet effort-là, il y a une sorte de satisfaction presque morale à avoir accompli cet effort que vous n'avez pas lorsque vous avez lu un excellent film, un chef-d'œuvre, ou écouté un chef-d'œuvre de la musique qui peut vous exalter, clairement. Mais à la fin d'un livre, vous avez l'impression presque d'avoir accompli une bonne action. C'est un peu comme, j'entends ça dire, prendre un bain d'eau froide. Vous êtes lancé dans la mer, elle est froide. C'est pas évident au départ. Il faut de l'effort. Il faut de l'énergie. Il faut s'y lancer. Mais une fois que vous y êtes, au bout de quelques minutes, c'est très bon et vous en ressortez, revigoré pour le reste de la journée. Il y a quelque chose là de la satisfaction intellectuelle, de l'effort accompli. Qui n'est pas seulement moral, c'est l'impression d'avoir accompli quelque chose par le cerveau que vous n'auriez pas fait autrement. Et l'important, évidemment, c'est de donner cette habitude-là à des jeunes, à des enfants. Je pense que tout enfant, parce qu'il faut penser quand même à la jeunesse, et qui est évidemment la victime, la première victime des écrans, etc. Tout enfant qui aura connu dans sa jeunesse des bonheurs de lecture, un jour, il reviendra, plus tard, adulte. Alors même que adolescents ont plus de mal à rester à la lecture. Mais les souvenirs, c'est des choses que dit Proust, hein, qui est cité par François. Les souvenirs des bonheurs de lecture de l'enfance sont les meilleurs incitateurs à la lecture adulte. Et donc c'est pourquoi l'enjeu de la lecture pour les enfants, c'est absolument, absolument fondamental. Bon, je voilà, excusez-moi de passer un petit peu mon message. oui, bien sûr, tout à fait.
La dernière question.
Ouais, c'est une question toute simple. Merci beaucoup pour l'ensemble. Moi, j'avais juste la question un peu curieuse de savoir comment et pourquoi le pape François vous a choisi pour écrire cette préface. Ah. Où je me disais, en fait, ça aurait pu être quelqu'un d'un autre pays, enfin, ou avoir du coup un aspect plus universel, mondial. Enfin, en tout cas, là, comme pour moi française, je me dis, tiens, c'est la France. Quelle est la symbolique aussi derrière?
Je vous rassure tout de suite. J'ai juste aimé avoir été choisi. Prédestiné, si je puis dire, par le pape. Non, les choses sont plus simples que ça. En fait, en vérité, c'est l'éditeur qui m'a demandé de faire une préface. L'éditeur français, en l'occurrence les éditions des Équateurs, après la tribune que j'avais faite, parce que c'est effectivement que on peut faire une préface qui soit beaucoup plus spirituelle, etc. Et c'est pas mon rôle. Moi, je suis professeur de littérature, c'est la littérature qui m'intéresse. Et mon rôle, j'ai trouvé intéressant de donner ce texte, enfin, de donner envie à lire à des gens qui ne soient pas chrétiens, catholiques. Donc c'est ça. Donc en fait, j'ai pas été missionné par le pape ou par le Vatican. C'est l'éditeur qui avait le droit je sais pas du tout comment c'est passé, qui avait le droit de demander une préface. Le fait est que je suis par ailleurs en relation avec des proches du pape qui ont apprécié ce que j'avais écrit par ailleurs. Et donc, mais c'est a posteriori. Non, non. j'aimerais bien être nommé. Il y a les moutardiers du pape, les préfaciers du pape. J'aurais aimé être avoir le rôle de préfacier officiel du pape. Voilà. Mais non, mais je suis préfacier du pape. C'est pas une mission qui m'a été confiée par le pape. C'est une mission qui m'a été donnée par l'éditeur. Et du reste, il y a d'autres préfaces qui ont été écrites dans d'autres pays ou ici en France qui existent aussi. Mais mon objectif, en tout cas, dans la préface, c'était vraiment de parler d'un point de vue profane. Qu'est-ce que, d'un point de vue profane sur la littérature, et puis aussi du point de vue de l'histoire du discours religieux chrétien sur la littérature, qu'est-ce que cette lettre apporte de neuf, de nouveau. C'était ça la mission que je me suis donnée et que l'éditeur m'a donnée aussi. Voilà, que je me suis donnée d'abord. Voilà.
Merci beaucoup, William Marx, pour cette préface qui a fait ressortir justement ce message de liberté et puis cette confiance aussi dans le lecteur. Et merci beaucoup pour ce bain, j'ose pas dire bain d'eau froide, mais en tout cas vos paroles sont revigorantes et enthousiasmantes. Sur la littérature, on a envie d'aller. On peut vous écouter au Collège de France.
Ah bah oui.
Venir.
Ah oui. Alors, tout à fait. Alors mes cours. Donc je fais cours au Collège de France. Et donc les cours commenceront le 14 janvier. Ce sera jusqu'à la fin mars. C'est chaque semaine, le mardi à 17h. C'est suivi d'une heure de cours, suivi d'une heure de séminaire. Avec le programme n'est pas encore affiché. Vous allez voir, c'est un magnifique programme sur comment lire, justement, comment lire, comment interpréter. Donc on est en fait. Je parlerai. Je crois que je vais consacrer une séance. Peut-être pas entièrement à cette lettre du pape, mais au moins à cette question-là de l'interprétation mais en tout cas cette spirituelle par Basile de Césarée, par François, la manière dont les lectures allégoriques sont des manières de faire sens de textes qui, au départ, vous échapperaient. Et donc cette question de l'interprétation sera au cœur vraiment du cours que je vais donner là sur les 9 séances d'une heure que je vais donner, et c'est suivi d'un séminaire à 18h, 18h à 19h, avec des invités, vous allez voir, très divers, assez passionnants. Je peux vous indiquer en avant-première qu'en fait, Kamel Daoud sera mon invité aussi parmi les... donc il a obtenu le prix Goncourt aujourd'hui, sera mon invité au mois de mars. Mais il y aura d'autres invités très, très bien et très prestigieux, vous allez voir. Ça va être... ou d'autres moins prestigieux, mais... assez passionnant, vous allez voir. Donc voilà, attendez, ce sera bientôt affiché sur le site du collège. Bon.
Il y aura François, pas François.
Écoutez, en fait, j'ai été en discussion, en fait, parce que quand François, mais c'est sérieux.
Si vous arrivez à le faire venir à Paris.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il était prévu qu'il vint pour l'inauguration de la cathédrale, enfin Notre-Dame de Paris, la réouverture, le 8 décembre. Et donc j'étais en discussion avec justement ses proches du pape pour le faire venir éventuellement au collège et parler de littérature. Mais comme vous savez, il a finalement dit qu'il ne viendrait pas. Et donc voilà, ce sera une autre fois. Voilà. Bon.
En attendant les cours du Collège de France le 14 janvier, vous pouvez lire aussi dans la revue Études, le numéro de novembre, l'entretien avec William Marx. Voilà, merci beaucoup.
Super, merci. Comme voilà. Ça, on est plus c'est bien. C'était bien. Si passait tout ce bah, oui. Bien, c'était bien, c'est ça. Voilà. Bah, oui.
C'est très bien. Avec Kamel Daoud, c'est bien.
Ah, c'est très content. Oui, ah,
c'est génial.
Il y avait eu un super événement le 18 octobre à la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il y avait eu? J'ai pas parlé de Don Quichotte à la Sorbonne. Ah, si, bien sûr. Ah, oui, c'était je fais tellement de choses. C'était oui, ça avait, au grand amphi de la Sorbonne.
J'étais ravie parce que c'est moi qui présentais Elias Jouni.
Ah, mais oui.
Ah, et il y avait Bouchot.
Ah, d'accord.
Et donc, j'étais ravie que tu me dises ceci pour venir parler, etc.
C'est vrai, tout à fait.